Ah bien voilà, un autre balado, et cette fois nous réunissons une chanteuse, une voix, un mezzo-soprano, Maude Brunet, et le chef d'orchestre, la tête pensante, le cœur, l'âme, si j'ose dire le corps de l'Orchestre symphonique de Laval, Alain Trudel. Alain Trudel, quand arrive le temps de Noël, qu'on soit la Philharmonie de Berlin, qu'on soit la Philharmonie de New York ou Los Angeles, enfin, n'importe où au monde, il faut avoir un concert de Noël, si on est en Occident, bien sûr. Sauf que le répertoire de Noël est très souvent associé au baroque. Et là, nos orchestres sont entraînés, on les a formés pour être des musiciens d'orchestre dits généralistes. Mmh. Et là, on arrive avec toute cette nouvelle mouvance maintenant où les baroquistes, les baroqueux, les instruments authentiques, enfin, toute cette histoire fait que tout à coup, on se retrouve avec des archets plus courts ou pas de vibrato. Ça devient une toute autre équation que de faire de la musique dite baroque. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec un orchestre comme votre orchestre, l'Orchestre symphonique de Laval, et que vous devez faire, par exemple, un Gloria de Vivaldi?
Chacune des œuvres qu'on joue, on essaie de le jouer dans le style de l'œuvre, ce qui nous amène à avoir plus de répétitions, à avoir plus de travail dans une œuvre qui, quelquefois, a l'air plus facile. Mais le fait, par exemple, qu'on n'utilise pas de vibrato. Si on est un orchestre qui joue toujours de cette façon-là, mais ça devient par défaut la façon dont on joue, puis ça devient plus facile après un bout de temps. Si on est un orchestre, comme vous dites, généraliste, ce qu'on est, on n'en fait pas beaucoup là, par année, on peut plus vraiment s'accrocher sur le vibrato.
Mais si on allait dans le détail, pour le grand public, là, ouais. C'est les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Comment il faut penser la musique autrement?
Quand il y a beaucoup de vibrato, c'est comme s'il y a un filet en dessous pour l'intonation. Si on échappe un peu quelque chose qui est un peu faux, le vibrato aide un petit peu à corriger. Puis c'est un mélange de toutes des sonorités puis des vibrations qui sont un petit peu différentes, qui font la richesse du son. Tandis que quand on joue sans vibrato, la richesse du son vient de la perfection de l'intonation, puis aussi de la façon dont on va tout articuler ensemble. Donc, le message est dit d'une façon différente. Fait que pour nous, c'est pas mal de travail, mais on adore ça, jouer dans ce style-là. Le concert qui va avoir lieu 2 semaines avant ça, et dans le Festival Bach, où on fait 3 cantates de Bach. Donc, pour nous, ça nous fait une belle préparation pour arriver vers ce concert baroque-là. Fait que l'idée, c'est d'avoir 2 concerts de fil où on travaille dans ce style-là, puis on travaille, c'est ça, la façon de jouer qui est un petit peu différente.
Bonjour, Maude Brunet.
Bonjour.
Par exemple, pour une chanteuse, quand on étudie le chant, que ça soit n'importe où, évidemment, c'est l'idée d'avoir une soufflerie et d'utiliser les trous dans la tête, parce que finalement, ça revient à ça, et d'être capable d'utiliser le corps comme résonateur avec une soufflerie qui fait qu'on emplit ces trous-là en dégageant au maximum tous les obstacles qui peuvent arriver pour que le son sorte comme à la naissance, avant que l'éducation de nos parents nous ait déformés. C'est à peu près ça, finalement.
Tout à fait. C'est un très beau résumé de la technique vocale.
Cela étant, quand on arrive à la musique baroque, c'est une autre façon de faire. On ne va pas chanter un air de Miki Amano Mimi de la même façon qu'on va faire un extrait du Messie d'Handel. J'ai toujours l'impression qu'il faut retenir quand on fait du baroque. Est-ce que c'est le cas?
Non. En fait, je suis pas d'accord avec l'idée de se retenir, mais c'est certain que la musique baroque demande plus de souplesse, de légèreté, de souci d'intonation aussi, effectivement, comme Alain disait, à cause de la gestion du vibrato qui doit être...
Mais c'est ça. Mais quand je disais de se retenir, c'est au niveau du vibrato, parce qu'en principe, le vibrato, il est naturel.
Absolument.
Donc, vous le retenez à ce moment-là.
C'est-à-dire que, vous savez, je dirais que c'est plutôt dans l'approche musicale. Donc, la musique baroque, pour moi, demande une très grande écoute parce que l'instrument est vraiment traité sur le même pied d'égalité que les autres.
Ah, vous concevez votre participation comme étant un autre instrument de l'orchestre.
Absolument.
Une autre couleur.
Okay. Mais en musique, par exemple, dans les cantates de Bach, la plupart du temps, la voix est accompagnée d'un instrument soliste. Et c'est vraiment un dialogue, là, avec un hautbois, un violon, une flûte. Et donc, ça demande au chanteur de prêter une oreille à ce qui se passe avec... avec l'instrument.
Vous n'êtes plus seul au monde.
Exactement. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de frottements, beaucoup de dissonances, de tensions qu'il faut faire ressortir. Donc, ça demande justement une grande écoute.
Ça, ce serait la qualité fondamentale pour pouvoir chanter une grande écoute. Et cette agilité qu'il faut développer, par exemple, soit les tris, soit tous les ornements, cette science qu'on a complètement perdue avec le chant dit moderne des 150 dernières années. Comment vous dépatouillez-vous dans le répertoire italien, le répertoire français, le répertoire allemand, toute cette infinie richesse d'informations qu'il vous faut assimiler? Vous faites comment ça, Maude Brunet?
Au niveau du style, ouais. Vous parlez. Au niveau du style, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'enseignements de Suzy Leblanc,
ah ben oui.
Qui est une grande spécialiste des différents styles dans la musique ancienne. Et elle m'a beaucoup aidée à démystifier un peu, justement, les différentes tris, les différents ornements qui sont de bon goût chez l'un et de mauvais goût chez l'autre. Mais c'est un art, c'est un savoir qui a tendance à se perdre, je crois.
Et le concert que vous allez faire, là, vous allez faire des cantates de Bach, vous allez faire le Gloria de Vivaldi... Cet esprit de Noël, nous, Nord-Américains, c'est très particulier. Et bon, on pourrait très bien faire ça à Pâques ou faire ça au mois de juillet, ça, c'est dur. Mais quand on le fait dans le temps de Noël, il y a une couleur, il y a une saveur, il y a quelque chose. Quand on se retrouve sur une scène et qu'on sait que c'est un concert de Noël, ben forcément, il va y avoir des enfants. Donc, on se prépare déjà à ce qu'il y a des gens qui hurlent et tout, des petits-enfants qui crient. Et il y a une façon de donner qui n'est pas comme d'habitude. Est-ce que vous le ressentez, ça aussi, Maude Brunet?
Je ressens ça beaucoup dans l'atmosphère. On sent quand on est sur la scène, hein, ce qui se passe dans la salle. C'est intangible, mais c'est vraiment concret pour nous. Et un concert de Noël, c'est toujours vraiment spécial. On sent que les gens ont des souvenirs d'enfance. Il y a une nostalgie, un bonheur de le faire découvrir aux plus jeunes si les gens amènent leurs enfants. Et je trouve toujours que ce sont des concerts vraiment, vraiment uniques. Les gens, à la fin, sont tellement content. Il y en a qui se paient un concert classique par année, puis c'est le concert de Noël.
Oui.
Oui, et dans des pièces comme ça qui sont très connues, je pense que ce sont des pièces qui font vraiment plaisir aux gens. À Noël, on aime écouter des choses qu'on a écoutées 100 fois. On écoute toujours les mêmes cantiques. On veut écouter le Messie de Handel, ce qu'on va faire là, les quatre saisons, etc. On veut écouter de la musique qu'on connaît au coin du feu avec notre chocolat chaud, nos pantoufles, puis ça faire du bien.
Et puis des eggnog. Oui, oui.
Exactement.
Alain Trudel, c'est bien beau d'alléger l'orchestre, que les violons jouent plus court, qu'il n'y a pas de vibrato, en fait, de tout mettre ça ensemble. Mais quand on se retrouve avec un chœur, généralement, ce n'est pas un chœur professionnel. Ou s'il y en a, il y a certains membres. Mais on se retrouve avec des gens qui n'ont pas nécessairement une formation vocale, avec des gens qui n'ont pas nécessairement une formation musicale, et avec des gens qui ne sont pas nécessairement habitué d'être dirigé de façon précise, de devoir se soumettre à une discipline incluant des solistes, un orchestre, etc. Le contrat me semble assez gros, non?
Oui, sauf qu'ici, on a un grand privilège. Ouais. On a un luxe total. On a les petits chanteurs de Laval.
Ah, ben oui.
Sous la direction de Philippe Ostigui. Uh-huh. Vous parliez d'enfants, là, tantôt, dans les concerts de Noël. Ben nous, les enfants, on va les avoir sur la scène.
Okay.
Donc, c'est un chœur de jeunes. Par contre, c'est un chœur qui a fait, avec nous, le Messie dans le passé, qui a fait la création de la nouvelle œuvre de Gilles Bellemare l'année d'avant. On travaille avec eux régulièrement. Donc, je les connais. On se connaît et on travaille. Philippe et moi, on a travaillé souvent ensemble. J'ai travaillé souvent avec son chœur. Leur chœur joue avec notre orchestre aussi. Donc, pour nous, je comprends la dynamique qui pourrait être possible, mais ce n'est pas le cas. Pour nous, on se retrouve vraiment. La famille a grandi de l'orchestre. C'est une extension de ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est tout à fait. C'est non seulement agréable, mais c'est une joie, puis c'est pas difficile à mettre ensemble.
Puis un son de voix d'enfant, mm-hmm. Ça a quelque chose que même la meilleure chanteuse, excuse-moi de Brunet, ou même le meilleur soprano au monde ne peut pas avoir, cette espèce de. de transparence, de pureté, d'innocence et d'espèce de vulnérabilité des voix d'enfants, c'est quelque chose qui transperce le cœur, surtout dans le temps de Noël.
Ben, et c'est extrêmement approprié au répertoire que l'on fait. Quand on a fait le Messie, là, les gens qui sont venus au Messie ont fait « Wow, c'est quoi ce cœur-là? C'est bien extraordinaire. » Parce que c'est pas une œuvre qu'on voit nécessairement souvent avec un cœur d'enfant.
Non.
Hein? Parce que c'est extrêmement demandant. Puis j'ai gardé tous les cœurs difficiles dans le Messie quand on l'a fait. Fait que, puis le Gloria Vivaldi le connaissent très bien. Fait que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Puis Cantate de Bach, ils vont les avoir fait avec nous à Montréal, au festival Bach à Montréal.
À Bourgie.
Oui, effectivement. Donc, c'est une association de longues années. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Tout comme quand on fait un répertoire comme le Requiem de Verdi, on va avec le cœur de Laval. T'sais, parce que c'est des voix plus matures, puis on a besoin de plus de vécu un petit peu dans le son. Mais ces œuvres-là qu'on fait, ces voix-là vont se prêter extrêmement bien. Puis le propos est intéressant parce que, par exemple, la cantate de Bach, t'sais, souvent on pense à Bach, puis on voit comme c'est plus divin qu'humain, là, mais c'est profondément humain, cette cantate-là. C'est la cantate
on ne peut pas faire 21 enfants pour être humain.
Ben, effectivement. Puis, ben, oui, Bach, un des musiciens les plus humains. Mais cette cantate-là aussi, c'est un repentant. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est un peu... on tire plus sur le Saint-Augustin que vers le divin total.
OK. Ce divin a quand même connu le péché.
Exactement.
Voilà. On regarde aujourd'hui, par exemple, bon, il y a le Gloria de Poulain, il y a quelques œuvres sacrées, mais généralement, on pense à opéra ou on pense à cycle de mélodie, etc. Mais quand, pour une chanteuse, et là, peut-être que ça change absolument rien, mais c'est la question que je vous pose quand même, Maud Brunet, là, vous allez faire des cantates de Bach, le Gloria, un Gloria, donc on adresse à Dieu, on lui dit gloire à Dieu, etc. Et tout. C'est une musique sacrée. Est-ce qu'il y a une espèce de positionnement, pas nécessairement vocal, mais dans la tête qu'on prend pour s'adresser à Dieu et non plus simplement aux créatures humaines?
En fait, pour moi, tout passe par la musique. Donc moi, je suis une courroie de transmission entre... le divin.
La partition et le texte.
Ben voilà. Oui, je transmets ce qui a été écrit et sans être très croyante moi-même, je dois dire que la musique sacrée me connecte à quelque chose de plus grand que moi et je pense qu'on sent ça dans l'assistance aussi, qu'il y a vraiment, certains parlent de l'effet Bach, là. Il y a oui. Une espèce d'atmosphère méditative et très profonde. Qu'on vit à travers cette musique-là, et c'est ma religion à moi.
C'est pas une question d'être... Maud le disait, Alain Trudel, c'est pas une question d'être croyant ou non, mais quand on s'attaque à des textes sacrés, quand on s'attaque à, par exemple, à Bach, où on sait qu'il était croyant, profondément croyant, etc., comment on s'organise pour entrer dans des chaussures que les gens ont porté il y a si longtemps. Autrement dit, retrouver cette espèce de luminosité de l'intérieur.
Oui, mais les chaussures, pour reprendre l'expression, sont intemporelles. Parce que c'est... On parle de croyance. Donc, moi, je suis croyant, mais je veux dire, c'est, à quelque part, on se rejoint. Tu sais, justement, à quelque part, on arrive à se rejoindre dans ça. Puis quand on dit, justement, on parlait d'un Gloria, OK, gloire à Dieu, mais si Dieu a fait l'homme à son image, c'est aussi gloire à nous. C'est gloire à tout ce qu'il y a, où on se rejoint. L'humain, le divin se rejoint dans ça. Puis Bach, c'est naturellement la jonction, ben exactement, oui. Où l'humain, le divin se rejoint dans la même personne. Écoute, c'est ça reste du domaine de... C'est très difficile à croire que quelqu'un comme lui a existé. Mais puis, en fait, c'est un acte de foi, du coup, presque, sauf qu'on a les preuves, tu sais.
Avec Bach, on a les preuves.
Puis la preuve de Bach est une preuve de croyance aussi.
Alors, Maud Brunet, mezzo-soprano, et puis Alain Trudel, merci. Ça a été un plaisir et un honneur d'être avec vous.
Merci à vous.